Toucher Terre, Émilie Glory, sur Radio Grand Ciel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toucher Terre. Son titre, par monts et par vaux, car oui, tout vous incitera non seulement à mettre le nez dehors, mais aussi à partir en vadrouille, à sillonner les chemins. Au sommaire aujourd'hui, opération Busard Cendré, avec nos amis et partenaires de l'association Eure-et-Loire Nature. Nous suivrons Éric Guéret dans une prospection venteuse, plein sud à terminer. Ce n'est pas notre destination la plus lointaine, et si vous rêvez grands espaces, vous n'allez pas être déçus. Dans la dernière partie de cette émission, nous partirons à la fois pour Ménigoutte dans les Deux-Sèvres et pour une vallée reculée au Tibet, là où le réalisateur et photographe Frédéric Larrey est allé chercher et trouver la superbe Panthère des Neiges. Mais pour commencer, revenons à la nature près de chez nous qui n'a jamais fini de nous surprendre. Le Conservatoire d'espaces naturels Centre Val-de-Loire, que nous suivons chaque mois, fait partie des associations qui nous aident à la redécouvrir et surtout à en prendre soin. Comme chaque année, le Conservatoire propose un calendrier d'activités, parmi lesquelles les sorties nature qui ont démarré depuis le début du printemps. C'est le moment de sortir vos agendas. Sylvain Garbard, garde animateur de l'antenne eurélienne, nous en dit plus sur cette saison 2022 qui est d'ores et déjà riche d'explorations et d'enchantements. Je remercie vivement Simon Martin qui m'a prêté sa voix pour l'enregistrement de cet entretien, la mienne ayant connu quelques déboires.
Sylvain, bonjour. Alors, je remplace exceptionnellement Émilie qui est victime d'une extinction de voix. Merci d'être à nos côtés pour évoquer les animations du Conservatoire d'espaces naturels et puis faire un bilan un peu plus global sur vos activités en 2021. On va parler donc de la saison précédente. On peut dire qu'elle s'est déroulée dans de meilleures conditions que 2020.
Alors complètement, effectivement, il y a toujours la Covid-19 qui nous a contraints en termes de déroulement de nos animations grand public, mais aussi en termes de projets scolaires, avec les différentes mesures sanitaires et protocoles à mettre en place. Pour autant, le bilan reste tout de même positif. Par rapport à 2020, on a dû reporter un grand nombre d'animations, de même que le grand public a été au rendez-vous. Sur les 53 animations grand public qui ont été proposées par le Conservatoire en 2021 sur le département, il y en a 11 qui ont été réalisées par des bénévoles mais aussi des partenaires du Conservatoire et qui ont permis de rassembler à peu près 590 personnes.
Ah oui.
Donc c'est quand même un très bon chiffre. On a pu réaliser également 5 projets scolaires qui a permis de sensibiliser à peu près 180 élèves. Donc c'est une année qui reste très positive. Si en plus on met en parallèle avec l'évolution du nombre d'adhésions au conservatoire, donc là je vais évoquer les chiffres du département sur le département d'Eure-et-Loire. Par rapport à 2020, en fait, on a eu une évolution de 57% du nombre d'adhérents, donc en termes de positifs, donc 127 nouvelles adhésions. Si on regarde les années précédentes, par exemple, en 2020, c'était 82 adhérents qu'il y avait sur le département d'Eure-et-Loire au conservatoire. Et du coup, on va mettre en regard par rapport à la crise sanitaire. En 2018, donc c'est-à-dire avant le Covid, il y avait 59 adhérents. Donc ce qu'on a pu observer là, justement, on va dire avec le post-Covid, c'est qu'on a vraiment le sentiment que le grand public s'est vraiment intéressé à la nature à côté de chez lui.
Il y a une prise de conscience quelque part.
Complètement. De même qu'il y a énormément de demandes de bénévolat. Et ça a été accentué là, justement, suite à la crise sanitaire.
Le besoin de sortir, le besoin de redécouvrir aussi la nature, voilà, qu'on a tous pu ressentir pendant le confinement, effectivement. Ouais.
Je pense qu'avec effectivement les limites géographiques pour faire les sorties, le grand public a redécouvert, voire même découvert la nature à côté de chez soi et a souhaité la préserver et la connaître plus, d'où le fait que maintenant ils assistent à nos animations et soutiennent nos actions.
La nature à côté de chez nous, effectivement, en Eure-et-Loir, il se passe des choses, il va s'en passer en 2022. Alors comment élabore-t-on une saison d'animation nature ? J'imagine qu'il y a des incontournables, comme les grenouilles ou les chauves-souris.
Complètement. Il y a des thématiques qui reviennent tous les ans et qui sont effectivement incontournables, que ce soit en termes d'espèces, mais aussi en termes d'événements nationaux. Par exemple, Fréquence Grenouille, qui est portée par, on l'a déjà évoqué dans l'émission, qui est portée par les conservatoires et réserves naturelles de France. Il y a la fête des mares, la fête de la nature, le plan mare. Donc là, en ce moment, on est plutôt sur Fréquence Grenouille, avec les animations auprès des amphibiens et qui permet également la sensibilisation aux zones humides. Et en fonction de la saison, eh bien, effectivement, il va y avoir la botanique, les oiseaux, notamment les orchidées aussi, et puis par exemple au mois d'août, les incontournables Nuits de la Chauve-Souris, qui rassemblent pas mal de monde.
Alors il n'y a pas nécessairement de nouveautés, on avait de dire que chaque sortie est nouvelle, on peut y aller d'une année sur l'autre, on verra pas les mêmes choses.
Voilà, l'idée, en fait chaque site qui est préservé par le conservatoire bénéficie au moins d'une animation par an, qu'elle soit faite par un salarié ou un bénévole du conservatoire, voire même un partenaire. L'idée c'est que tous les ans ce soit pas la même thématique qui soit abordée, parce qu'après évidemment on va se lasser. Donc les thématiques tournent de site en site, ce qui permet de découvrir d'autres aspects du site naturel. Donc par exemple une année ça va être les papillons, une autre fois ça peut être par exemple une approche avec des contes et légendes. Des découvertes qui peuvent être aussi crépusculaires, voire nocturnes. Donc, ce qui permet toujours d'avoir un programme d'animation diversifié et pouvoir découvrir à chaque fois une nouvelle chose à côté de chez soi, toujours.
Alors, par contre, il y a peut-être des nouveaux sites dont le Conservatoire d'espaces naturels a fait l'acquisition et qui seront visibles pour le public en 2022 ou pas nécessairement ?
Alors, en 2022, en termes de, on va dire, de sites récents, qui sont pas tout nouveaux, donc par exemple, il y a une randonnée qui va être organisée le 17 septembre, en partenariat avec l'Office de tourisme de Dreux. Il y aura une randonnée qui va passer par le site du Fort-Aroir. Donc là, c'est un site où on a passé une convention assez récente. Avec la direction régionale des affaires culturelles qui en a délégué la gestion. Donc là, le principe, c'est une randonnée pédestre qui va passer par le site du Fort-Aroir et là, le Conservatoire d'espaces naturels abordera les enjeux de préservation archéologique, mais aussi naturelle.
Un site où le public n'a pas accès habituellement.
Voilà, c'est un site qui est complètement fermé et là, ça donnera l'occasion de le découvrir en mode privilégié. Une autre animation qui sera proposée sur un site, là par contre d'enjeux géologiques et pédologiques, c'est un chantier de bénévoles qui aura lieu le 1er octobre sur le site des Bois de Gilfos à Chaudon. Où en fait, il y a un ancien front de taille d'une ancienne tuilerie où il est possible, c'est le seul endroit en Europe où on peut découvrir en fait ce qu'on appelle un sol qui date en fait de la dernière glaciation. Et c'est le seul endroit où on peut le visualiser de manière non déstructurée, en fait.
Il y a, comme on imagine, une progression au fil des saisons. On l'a vu un peu, il y a un temps pour tout. On ne va pas entendre le brame du cerf au printemps, évidemment. Alors, dans celles qui sont à venir, là, fin de printemps, été, qu'est-ce qu'on va avoir ?
Alors, durant le mois de mai, plus particulièrement, on va se diriger petit à petit du coup vers la botanique mais aussi l'ornithologie puisque c'est la période on va dire de reproduction pour les oiseaux. Donc là par exemple le 7 mai prochain à Morancé, il y aura une animation qui permettra de découvrir les chants d'oiseaux qui sera proposée par le conservatoire. Pour les personnes qui sont intéressées par la botanique, cette année il y a l'étang de la Benette de Senonche qui est en ASEC décennal, donc c'est-à-dire qu'il est vide durant toute l'année et il y a une flore particulière qui va s'y développer et qui est très rare. Donc ça c'est une sortie qui sera le lendemain, donc c'est-à-dire le 8 mai. Ensuite il y a la fête de la nature, donc là c'est un grand événement national où là pareil il y a différents événements qui sont proposés. Par exemple le 18 mai prochain il y a la ville de Dreux qui va faire la fête de la nature au pont Audet. Il y aura différentes associations partenaires qui vont permettre de découvrir ce site-là, notamment par la découverte du pâturage, mais aussi les orchidées, et également il y aura Loire Nature qui va présenter l'inventaire de biodiversité communale qu'il y mène. Toujours ce week-end-là, le 21 mai, par contre, il y aura la fête de la nature à la réserve naturelle régionale de la vallée des Cailles. Et là, c'est vraiment orienté biodiversité et agriculture, puisqu'on va découvrir le pâturage qui va être mis en œuvre sur le site, donc avec une démonstration de chiens de troupeau et découverte du métier d'éleveur. Et le fait d'allier au final élevage et écologie.
D'accord, alors tous ces rendez-vous, ils sont à retrouver sur un site, le site du conservatoire ?
Complètement, on peut retrouver le programme nature sur notre site internet, donc cen-centrevaldeloire.org. Il est également possible de se procurer notre calendrier d'animation auprès des partenaires touristiques, donc notamment les offices de tourisme et syndicats d'initiative.
Alors, dans cette saison 2022, est-ce qu'il y a un événement qu'il ne faut absolument pas manquer ? Ça va être difficile à choisir, peut-être.
Alors, ça va être difficile à choisir. Et puis, donc, je rappelle qu'on est trois animateurs sur les départements, donc deux gardes animateurs, donc Mélodie, Tony et moi, plus des bénévoles qui font les animations. Alors, sans vouloir tirer la couverture vers moi, on va faire une petite sélection. En fait, tout dépend...
De nos centres d'intérêt, c'est ça ?
Voilà, complètement, ouais. Parce qu'en fait, entre les chantiers nature, la découverte des chauves-souris, donc s'il y a bien un événement à pas manquer, c'est évidemment les nuits de la chauve-souris, parce que c'est un petit animal très attachant, mais qui a une sale réputation, j'ai envie de dire, même encore dans les dessins animés, les chauves-souris sont toujours très vilaines.
Oui, et surtout qu'on ne voit pas beaucoup, évidemment, puisqu'il vit la nuit.
Voilà, c'est bien ça. Bah, au final, c'est souvent ça, les animaux nocturnes, ouais. C'est ceux qu'on craint le plus, les loups, les chauves-souris. Donc là, par exemple, les nuits de la chauve-souris seront proposées à l'étang de Lille le 27 août, à l'occasion des nuits internationales de la chauve-souris.
Et c'est où cet étang ?
C'est à Senonche.
À Senonche.
Et donc, c'est même un abus de langage, on devrait dire l'ancien étang de Lille, puisque c'est une zone humide. Et donc, en fait, c'est une soirée qui se déroule en deux temps. Une première conférence qui permet d'en savoir un petit peu plus sur les chauves-souris et quelles sont les espèces qui sont chez nous. Et ensuite, une partie plus concrète, où là, par contre, grâce à un détecteur d'ultrasons, on part les observer, mais aussi les écouter via ce boîtier.
Alors, est-ce que le Conservatoire d'espaces naturels s'est fixé des objectifs pour cette saison 2022 en termes, je ne sais pas, d'adhérents ou de participation ?
Alors, on ne s'est pas fixé d'objectif en termes on va dire de quantitatif. Ouais. On est vraiment sur du qualitatif. Donc, c'est pour ça qu'à l'issue de chaque animation, on remet un petit questionnaire de satisfaction qui permet de savoir ce qui a plu au grand public durant l'animation. Donc, ça, c'est l'occasion justement de savoir ce qui a plu. Mais évidemment, on peut toujours s'améliorer, donc c'est aussi de connaître les points d'amélioration. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est vraiment la qualité des animations et du discours que l'on peut avoir pour répondre complètement aux attentes du grand public. Après, au niveau adhésion, pareil, on n'a pas d'objectif. Disons qu'on a une petite, on va dire, en interne, on a un petit objectif tout de même.
Un petit challenge.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'année dernière, sur les 327 adhérents que pouvait compter le conservatoire en région Centre-Val-de-Loire, l'Eure-et-Loire était le second département à avoir le plus d'adhérents, juste derrière le Loiret, à deux adhésions près. Et donc l'objectif, c'est qu'en 2022... L'Eure-et-Loire soit le département avec le plus d'adhérents au conservatoire.
Évidemment. Sylvain, grand merci. Alors, avant de nous quitter, comment fait-on pour participer à ces rencontres ?
Alors, pour participer à nos rencontres, il suffit de s'inscrire par téléphone ou nous envoyer un mail, parce que toutes les animations ont sur réservation. Et ensuite, on vous donnera toutes les modalités pratiques pour venir nous retrouver dehors, sur place, et découvrir la nature.
Et toutes ces informations, vous les retrouvez également sur le site de Radio Grand Ciel, Touche et Terre. Merci beaucoup.
Merci.
Merci Sylvain Garbard et merci donc à Simon Martin. Sylvain vous a donné les prochains rendez-vous du conservatoire. Vous les retrouverez sur la page de Touche et Terre, de même qu'un lien vers l'agenda complet du conservatoire. Notez également que vous retrouvez le CEN lors de plusieurs manifestations à venir. au cours desquels les bénévoles de l'association tiendront des stands de présentation. C'est l'occasion pour vous de les rencontrer en chair et en os, et pourquoi pas d'adhérer. Prochain rendez-vous donc les 14 et 15 mai prochains à Chartres, au village du développement durable, et puis à la chaussée d'Ivry, alors c'est dans l'heure, pour la fête du naturel bien dans mon jardin. Ce sera le 5 juin. Allez, dans quelques instants, nous gagnerons la plaine de Beauce à la recherche de l'un des rapaces les plus rares de notre département. Mais je vous propose avant cela une respiration musicale avec le pianiste de jazz Willie Smith, dit The Lion, le lion. Voici le fort à propos Echoes of Spring. Terre sur Radio Grand Ciel, nous écoutions le lion, The Lion, Willie Smith avec le célèbre Echoes of Spring. Et maintenant le grand air, et croyez-moi, ça souffle sur la plaine de Beauce. Mardi dernier, Simon, Martin et moi avions rendez-vous devant l'église de Termigné sur les traces de deux oiseaux rares. Le premier, c'est Éric Guéret, ornithologue chevronné de l'association Eure-et-Loire Nature, dont la parole se mérite, lui qui préfère arpenter les chemins plutôt que de s'enfermer dans un studio. Et le second, eh bien, c'est le busard cendré, l'un des rapaces les plus beaux mais aussi les plus rares de notre département. Éric s'est lancé il y a longtemps déjà dans le suivi de ces oiseaux qui ont la particularité, comme les busards Saint-Martin, de nicher dans les grandes cultures. Un choix judicieux pour vivre caché, mais un choix dangereux, car si les oisillons sont à l'abri des regards, ils ne sont pas à l'abri des moissonneuses, d'autant moins qu'ils nichent assez tardivement, justement à la période des moissons. Les prospections assurées par Éric et l'équipe de bénévoles qu'il a constituée ont donc pour objectif de repérer les oiseaux nicheurs et, le cas échéant, de protéger le nid en collaboration bien sûr avec les agriculteurs qui s'engagent alors à épargner la parcelle concernée. Malheureusement, il n'y a plus aujourd'hui qu'une dizaine de couples de busards cendrés en Eure-et-Loire. Raison de plus pour se mobiliser et donner un coup de pouce à l'espèce. Nous avons donc eu le privilège de suivre Eric lors de l'une de ses prospections, au cours de laquelle il nous a parlé des busards cendrés et Saint-Martin, mais aussi de l'avifaune des plaines en général. Et même si nous avions équipé notre matériel en conséquence, vous allez l'entendre, l'après-midi était venteux en Beauce. C'est parti. Eric Guéret, bonjour, nous voilà donc à Terminier. Alors quel est le but de notre sortie aujourd'hui?
Alors aujourd'hui c'est une prospection busard cendré en fait. Les oiseaux sont arrivés il y a une bonne quinzaine de jours maintenant. Et donc c'est le moment de les chercher pour savoir où ils sont cantonnés, c'est-à-dire pour essayer de trouver les nids dans les champs en fait.
Alors les gens ont peut-être entendu parler du busard Saint-Martin qu'on voit un petit peu plus souvent, mais le busard cendré, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu?
Alors le busard cendré, c'est donc le troisième busard qu'on peut trouver en Beauce. Donc le busard Saint-Martin qui est celui qui est le plus commun, qu'on voit un peu partout dans le département. Après on a le busard des roseaux qui est lui plus cantonné sur la Conie, mais il s'installe aussi dans les champs. Et le troisième, il est le plus petit en fait, c'est le busard cendré qui est donc lui un migrateur, à la différence des deux autres qui sont plutôt sédentaires. Cet oiseau, du fait qu'il arrive plus tard que les autres, donc niche plus tard. Et donc le problème, c'est qu'en fait, il n'arrive pas à élever ses jeunes avant que la moisson arrive. Et donc la plupart du temps, les jeunes busards cendrés passent dans la moissonneuse. Et donc à terme, l'espèce n'arrivera pas à se reproduire sur le long terme et disparaîtra de la liste des espèces d'Eure-et-Loire qui nichent en Eure-et-Loire.
Comment est-ce qu'on procède quand on a repéré un nid, surtout par rapport à l'agriculteur?
Les oiseaux sont quand même assez fidèles à leur secteur, donc ça fait que d'une année sur l'autre, on arrive à les retrouver, mais il faut quand même les chercher dans un rayon de 1 ou 2 km. En général, on arrive à retomber dessus. Et après, une fois qu'on a localisé la parcelle précise, on rentre en contact avec l'exploitant, le propriétaire du champ, et on voit avec lui pour poser un grillage en fait autour du nid. Et après, l'agriculteur, au moment de la moisson, passe autour du grillage. Et puis tout se passe bien normalement.
Alors normalement, mais comment est-ce que c'est accueilli ça par les exploitants? Est-ce qu'il y a encore des réticences et pourquoi?
Il peut y avoir des réticences au début parce que les agriculteurs ne sont pas forcément au courant de ce que je fais, quoi. En général, au premier contact avec un agriculteur que je ne connais pas, j'y vais avec l'Office français de la biodiversité. Donc c'est la police de l'environnement qui est en charge de protéger les espèces. Donc les deux organismes discutent avec l'agriculteur et en général, ça se passe bien, quoi.
Eh bien, merci Eric, il n'y a plus qu'à, hein. On va sur le terrain avec vous.
Pas de souci. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir?
Est-ce que pour les busards cendrés, c'est la même chose que pour les busards Saint-Martin, pour la parade qui est assez spectaculaire, et c'est souvent d'ailleurs à cette occasion qu'on les repère?
Oui, ce qui est bien avec les busards, c'est que les trois espèces ont le même comportement. Donc effectivement, les parades nuptiales, c'est un peu compliqué à expliquer une parade, mais en fait, c'est des oiseaux qui font des montagnes russes, en fait. Et puis vous avez aussi l'oiseau qui tourne sur lui-même. Et puis qui descend, qui monte. Donc ça se voit assez facilement. Et puis après, on a aussi le phénomène d'échange de proie. Donc c'est, en général, c'est le mâle qui apporte un campagnol à sa femelle. Et il y a échange de proie dans l'air. C'est assez spectaculaire aussi. Ouais. Donc voilà. Donc on va aller faire un petit point en hauteur parce que ça nous permet d'avoir une bonne vision sur le secteur.
Alors Eric, nous voilà au bord des champs. Est-ce que les busards cendrés ont des cultures de prédilection?
Ah oui, le busard cendré, moi je le trouve principalement dans le blé et dans l'orge. Il y a le busard Saint-Martin et le busard des roseaux qui peuvent aussi nicher dans le colza. Mais par contre, le busard cendré, je n'ai jamais trouvé dans le colza. Sinon, à l'état naturel, il niche dans des landes, dans des friches assez denses. Et puis dans le sud du pays, ils nichent dans les chênes Kermès aussi, en milieu naturel, quoi.
Là, on est au pied d'une grande éolienne. Alors, les éoliennes, Eric, est-ce que ça représente un danger pour les busards? Est-ce qu'on le sait ou pas?
Il y a des études qui sont faites un peu partout en France. Alors, ça dépend du site, en fait. Au niveau de la migration, il peut y avoir un impact minimum. Par contre, si les éoliennes sont implantées sur un site où l'oiseau nidifiait depuis des années, il y a de forts risques qu'il y ait beaucoup de collisions, parce qu'en fait, l'oiseau restera en permanence sur son territoire et au bout d'un moment, forcément, il rentrera en collision avec une éolienne, quoi. Il faut savoir aussi que c'est une action qui est coordonnée au niveau national, au niveau européen et au niveau international aussi. Il y a un suivi qui est fait en Afrique au moment de l'hivernage.
Est-ce que ce sont des oiseaux qui sont bagués? Est-ce qu'on peut retrouver certains individus en particulier?
Il y a eu une expérience de marquage à l'air, en fait. C'est-à-dire qu'on posait un bout de plastique sur l'aile des oiseaux de différentes couleurs pour le reconnaître. En fait, c'était pour savoir en fait, si les oiseaux étaient fidèles à leur site ou si les oiseaux qu'on voyait chaque année revenir sur leur site étaient vraiment les mêmes oiseaux ou différents oiseaux. Et apparemment, c'est plutôt des différents oiseaux, quoi. C'est une étude qui n'a pas vraiment montré de choses très nettes, quoi. C'est un peu flou, quoi.
Qu'est-ce qu'il faut regarder?
T'as des jumelles, ouais. Il faut essayer d'accrocher un busard.
Alors ça veut dire quoi, Eric, accrocher un busard?
C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver un mâle cendré ou un mâle de busard Saint-Martin qui vole dans la plaine et essayer de définir si c'est un Saint-Martin ou si c'est un cendré. Si c'est un cendré, ben dans ce cas-là, essayer de le suivre au maximum pour qu'il nous emmène à proximité de son nid ou de la parcelle qu'il a sélectionnée, quoi. Le mieux, c'est qu'il chope un campagnol et puis qu'il l'emmène à la femelle.
Là, Eric, on cherche des busards, mais est-ce qu'il y a d'autres oiseaux dans ces champs qu'on croit souvent inhabités?
Il y a toute une faune, effectivement, oui, de petits passereaux, notamment dans le secteur où on est là actuellement, du côté d'Orgères. On peut avoir une espèce qui devient très rare en Beauce, c'est l'alouette calandrelle. C'est une autre espèce que l'alouette des champs, par exemple. Il y a des recherches qui sont faites chaque année pour savoir où elles sont, où elles se trouvent, dans quel biotope. Après, vous avez aussi toute une faune de petits passereaux, comme la bergeronnette printanière, la bergeronnette grise, le bruant proyer, la louette des champs, sans oublier la perdrix.
Et le dycnème, alors, est-ce qu'on le trouve par ici?
Ah, le dycnème, oui, c'est plutôt une zone où on va le trouver aussi. Ouais. Alors le dycnème, on le trouve souvent dans les terrains caillouteux, pierreux, ou souvent des zones que l'agriculteur a laissées, pas à l'abandon, mais qu'il cultive moins intensivement que d'autres terres, quoi. Et c'est vrai qu'il est assez présent dans le secteur de Beauce, là où on est. Ouais.
Alors essayons d'accrocher le busard. Il fait beau, Sabine, qu'est-ce que tu racontes?
Là, c'est
un peu de vent,
mais c'est la plaine.
Bien, ouais. Là, c'est leur creuse pour tout le monde. Parce qu'en fait, la relation entre le prédateur et la proie, c'est le compagnon est le plus actif le matin,
oui.
Et le soir.
Donc le busard aussi.
Donc le busard aussi, voilà.
Donc là, on aperçoit un oiseau en vol, là, c'est un faucon.
Oui, c'est un faucon cresserel. C'est un petit rapace qu'on appelle les mouchets dans les campagnes. Qui est encore assez commun.
Qu'on voit souvent au bord de la route, ça parlera à nos auditeurs. On peut le reconnaître assez facilement quand il guette une proie.
Oui, tout à fait. Ouais. Il a une posture typique en vol de chasse. C'est-à-dire qu'il fait le Saint-Yves-Fruit, en fait. Et puis il tombe à pic sur son compagnol ou sur sa sauterelle. Et voilà, quoi. Au bout de la rampe, il y a un busard qui s'amène, je pense.
Oui, là-bas. Eh bien, t'as l'œil, oui, je le vois, mais j'aurais pas dit que c'était un busard.
Là, il va pas tarder à arriver sur les hangars, je pense. Hein,
attends, vas-y, je suis pas là du tout. Hein.
Il est vraiment à 2 mètres au-dessus du blé. C'était une femelle de Saint-Martin.
Les femelles, c'est encore plus difficile, Eric.
Alors là, faut bien s'y connaître, parce que en fait, c'est uniquement le vol où on peut différencier les... En fait, la femelle Saint-Martin est plus grosse, en fait, en gros, que la femelle cendrée. Quand on connaît bien l'oiseau, en fait, on s'aperçoit que le bout des ailes est plus pointu sur la femelle cendrée que sur la femelle Saint-Martin, ça fait plutôt arrondi, on va dire.
Faut un œil exercé.
Oui, il faut pratiquer un petit peu avant de... avant d'être parfait. Là, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent avoir un petit peu de mal à voler avec le vent. Comme ils n'ont pas de jeunes à nourrir, donc ils mangent leur campagnol par jour et puis après ils se reposent plus ou moins.
Ils ont raison.
T'as une femelle là qui passe
qui passe
à l'horizon.
Je vois une silhouette, ouais. Ouais, mais. Elle
elle est vraiment au ras des champs.
Les spécialistes d'apparaître deux secondes et puis disparaître tout de suite. Donc,
les fantômes de la plaine.
C'est un peu ça, ouais. Et la plaine n'est pas complètement plate, hein, parce que
oui.
Ils sont pas compensés.
Alors moi, je suis toujours surprise parce que les rapaces font quand même partie des plus gros oiseaux, en tout cas de nos plaines. Et pourtant, ils sont extrêmement discrets. Et même les busards Saint-Martin, qui sont plus nombreux, en fait, on arrive à les repérer peut-être une fois dans l'année au moment des parades. Après, ouais. c'est plus compliqué. Mm-hmm. Alors, où disparaissent-ils? C'est parce qu'on ne fait pas attention?
Bah en fait, oui, il y a différentes phases dans la journée. Donc les oiseaux, les rapaces sont plus actifs le matin et en fin de journée par rapport à leur proie qui est le campagnol principalement. Et oui, en fait, il y a différentes tailles de rapaces. Enfin, les busards sont parmi les plus petits quand même des rapaces de France et d'Europe, quoi.
Le plus gros qu'on trouve ici, c'est la buse variable.
Ça peut être la buse variable, ça peut être aussi le busard de roseau aussi, qui est assez costaud. On a la bonderie apivore aussi, qui se nourrit essentiellement de larves d'abeilles et de bourdons, etc. Après, au passage, on peut avoir aussi les milans. Milan noir et milan royal.
On en trouve un petit peu sur notre département qui ouais. passe ou qui s'arrête.
Il y a du passage au printemps puis à l'automne. Bon, ça niche pas encore en Eure-et-Loire. Mais je pense que le milan noir doit nicher du côté de la forêt d'Orléans, en Sologne. Donc tôt ou tard, il arrivera, je pense, en Eure-et-Loire. Mais il faut quand même des grandes forêts, quand même, et des endroits tranquilles.
Alors là, Eric, on entend un petit pépiment distinctif. Alors, de quoi s'agit-il?
Là, je pense que c'est l'alouette des champs. Effectivement, le champ est porté par le vent. Et l'oiseau, je ne sais pas, il doit être quand même assez loin, là.
Que font-elles dans les champs, ces alouettes?
En fait, là, je pense que c'est le mâle qu'on entend chanter. Et en fait, il détermine son territoire par rapport à un autre mâle, pour défendre sa femelle, pour défendre son territoire de chasse, en fait, son lieu où il va trouver de la nourriture, pour pas qu'il y ait trop de concurrence, en fait. Donc voilà, c'est ça le principal effet du champ, quoi, en fait, pour les oiseaux, quoi.
Et les alouettes vivent dans les champs, elles nichent dans les champs?
Ouais. Elles nichent dans les champs de blé, dans les champs, dans les prairies. En général, des champs avec une végétation assez basse, parce qu'elles aiment bien voir arriver le prédateur de loin, quoi.
Et alors l'alouette, ce qui est formidable au moment des parades, c'est qu'elle va s'élever très très haut.
Oui, elle peut s'élever assez haut. Il y a une différence avec l'alouette calandrelle au niveau de la redescente, au moment où ça redescend. Mais oui, effectivement, on peut la perdre de vue et puis c'est plus qu'un petit point dans le ciel. Mais bon, après, je ne sais pas, la densité, bon, sur les suivis qui sont faits sur le long terme avec la LPO, apparemment la population d'alouettes des champs a quand même chuté de 50% sur les 30 dernières années, quoi.
Alors, comme tous les oiseaux qui sont inféodés, oui. Au champ, malheureusement.
Oui, tous les oiseaux qui sont dans les plaines agricoles intensives, il y a un fort impact au niveau déjà de la grandeur des parcelles qui joue pas mal aussi. Puis les cultures qui sont souvent assez traitées. Après, il y a des années où l'agriculteur traite moins parce que la météo est favorable, mais après c'est la méthode de culture, quoi. Effectivement, le chimique impacte beaucoup, quoi, sur le... Je ne suis pas le premier à le dire, le dernier, je pense. Ça les prive en fait d'une quantité de nourriture qui leur est nécessaire pour...
En fait, c'est ça, c'est la chaîne alimentaire qui est perdue.
Voilà, tout à fait. Plus la chaîne alimentaire est impactée, et plus les effectifs des espèces vont fondre et voire quasiment disparaître, peut-être.
C'est notamment le cas de la perdrix, peut-être. Les plus vieux Euréliens doivent se rappeler, voire avoir vu, en tout cas, plus de perdrix qu'aujourd'hui. Ça reste assez rare aujourd'hui d'en croiser dans les champs.
Oui, là je viens d'en voir une aujourd'hui, donc c'est un sujet assez délicat.
Alors il y a deux, on peut quand même dire qu'il y a deux espèces de perdrix qu'on trouve en Eure-et-Loire.
Oui, déjà on a tout la perdrix grise qui est plutôt sur la Beauce, et la perdrix rouge qui est plutôt sur le Perche, en milieu bocager, peut-être du côté du Drouet aussi.
Alors là je vois un oiseau qui vole, mais tu vois.
Par rapport à quel
Alors tu vois Château d'eau à droite. Voilà. Là il va passer sous le Château d'eau.
Ah oui, ça doit être une femelle de Saint-Martin.
Il y a le mâle qui arrive.
Et il y a un mâle derrière, ouais. Il n'y a pas eu le change de proie, mais... Alors, c'est qu'ils sont partis. Hein. Si tu veux regarder, ils vont arriver dans la lunette, là, ils arrivent de la droite. Quand on arrive à les voir. D'accord. Le Saint-Martin, c'est plutôt des ailes à plat. Et puis tu sens vraiment qu'il force sur l'air pour voler. Ah ouais, parce que le cendré, c'est vraiment très léger. Quoi.
D'accord.
C'est un peu la différence entre le vol d'une mouette et le vol d'une sterne.
Juste devant là, tu vois. Tu le vois dans le champ.
Ah
là.
Oui, d'accord.
Voilà. Tout à côté.
Ah oui, bah là, il a repéré un truc, là, je pense. Toc. Ah, on ne voit plus. Il part sur la droite.
Ah ouais. Magnifique.
Voilà, une prospection qui s'est révélée infructueuse pour ce qui est des busards cendrés, mais nous avons observé de superbes busards Saint-Martin dont le suivi est important également. Je remercie une nouvelle fois Éric Guéret pour son accueil chaleureux et la confiance qu'il nous a accordée à Simon et moi, Simon Martin sans qui ce reportage n'aurait tout simplement pas pu être réalisé. Et merci aussi à Sabine, stagiaire d'Eure-et-Loire Nature, que vous n'avez pas entendu mais qui nous accompagnait également ce jour. Là, Sabine, dont vous avez pu entendre le portrait le mois dernier dans Touche et Terre. Si la prospection busard effectuée par Eure-et-Loire Nature vous intéresse, sachez qu'Éric recherche toujours des bénévoles auxquels il propose une formation pour repérer les busards et les identifier, surtout dans les secteurs peu prospectés jusque-là, comme les cultures entre Chartres et Dreux. N'hésitez donc pas à contacter Eure-et-Loire Nature, vous trouverez infos et coordonnées sur la page de l'émission. Nous n'en avons pas fini avec les espèces rares, et si les busards sont les fantômes des plaines cultivées de chez nous, la panthère des neiges est incontestablement celui des vallées tibétaines. Rendez-vous dans quelques minutes pour un entretien passionnant avec le photographe et réalisateur Frédéric Larrey, venu en octobre dernier présenter son film « Le royaume glacé de la panthère des neiges » au Festival international du film ornithologique de Ménigout. Mais tout de suite, une courte pause avec la chanteuse tibétaine Yongchen Lamo et la chanson « Dangje Den ».
Thank you.
Chen Lamo, interprété d'Orjeden dans Toucher Terre, une belle introduction à l'entretien qui va suivre que j'ai eu le plaisir d'enregistrer en octobre dernier au festival de Ménigout. Frédéric Larrey est un brillant photographe animalier qui, en 2019, était le protagoniste avec son frère Olivier, lui aussi photographe, du film de Stéphane Jacques « Sur les traces de la panthère des neiges ». En 2021, c'est en tant que réalisateur que Frédéric est revenu à Ménigout pour livrer sa version de l'aventure incroyable qu'il a vécue au Tibet avec son frère Olivier, mais aussi leur ami commun, le peintre animalier belge Yves Fagnard. Le royaume glacé de la panthère des neiges, c'est un film envoûtant d'une grande beauté visuelle mais aussi narrative. C'est une plongée dans une vallée sauvage où hommes et animaux cohabitent, confrontés aux mêmes éléments. Un témoignage d'une force incroyable, avec des séquences jamais filmées auparavant, fruit d'un travail patient de plusieurs mois. Rencontre tout de suite avec Frédéric Larrey et Yves Fagnard. Frédéric Larrey, bonjour. J'étais au festival il y a 2 ans et j'avais découvert avec beaucoup d'émerveillement le film de votre frère, Olivier, dont vous étiez l'un des protagonistes sur les traces de la panthère des neiges. Vous aviez ramené bien sûr de magnifiques photos et vécu une aventure forte en émotions, peut-être même en révélations. Aujourd'hui, vous revoilà avec votre film, me semble-t-il votre premier film, et il est consacré à la panthère des neiges. Alors pourquoi ce retour sur le territoire de cette panthère ?
Alors bonjour, donc c'est un projet qui s'est étalé sur à peu près 8 mois de mission. Donc initialement j'étais envoyé pour réaliser un reportage photographique sur la faune tibétaine et après 2 mois de repérage, le festival Argelès Photo Nature qui m'envoyait sur le terrain me proposait d'essayer de ramener des images de panthère des neiges, ce qui n'était pas chose facile. Mais j'étais heureux de relever le défi en leur disant que je ferais mon possible sans pouvoir garantir quoi que ce soit. Et c'est vrai que sur cette troisième mission, je suis parti avec mon frère Olivier qui lui venait filmer en fait. Et on a eu un peu un coup de chance. Voilà, on était un peu bousculé dans notre organisation, dans un premier site qu'on avait repéré. On était obligé de changer de lieu. On nous le demandait sur place parce qu'on constatait qu'il y avait du braconnage et on devenait des témoins un peu gênants. Et totalement par hasard, en se décalant à 100 km de là, on a fait une rencontre, donc toujours sur le plateau tibétain, d'une famille de bergers qui était impliquée dans la création d'un futur parc national qui a vu le jour en 2020. Et donc ça a été une suite heureuse puisqu'on a pu venir régulièrement, près de 6 mois, sur ce lieu, pour faire des images de panthères des neiges. Olivier est venu, Yves Fagnard est venu peindre, mon collègue Thomas Roger, et puis des équipes de tournage télé par la suite. Donc on a réussi à travailler dans la durée.
Ce territoire, est-ce que vous pourriez peut-être nous le décrire un peu plus pour nos auditeurs qui ne savent peut-être pas où trouver la panthère des neiges ?
Il y a 2 milieux en fait sur le plateau tibétain, donc c'est immense. Hein. Le plateau il fait 3000 km de large sur 1500 de haut. C'est couvert de montagnes dont l'altitude moyenne est à 4500 mètres. Et les 2 milieux, ce sont la steppe. Donc c'est une grande prairie en fait qui est parfois presque désertique avec quelques dunes de sable par endroit et des hauts sommets jusqu'à 6000 mètres. Et l'autre milieu, c'est vraiment des chaînes de montagnes avec des grands pâturages et des barres rocheuses. Et c'est justement là le milieu de prédilection de la panthère des neiges. Son terrain de chasse favori où elle peut se camoufler tout en trouvant ses proies, les grands barrals, dans ses prairies.
Justement, quand vous parlez de ce territoire qui est difficilement accessible pour les hommes, en tout cas, on imagine que le tournage a dû être plutôt compliqué. Comment est-ce que ça s'est passé sur ces 8 mois au total ?
Il y a eu un petit peu d'acclimatation au départ pour encaisser l'altitude. Ça se fait plus ou moins bien suivant les organismes. Moi, j'ai eu la chance que ça se passe assez bien, donc aussi sur place, au bout de 2 semaines, on crée des globules rouges et on respire de mieux en mieux puisque l'air est pauvre en oxygène en altitude. Et donc au bout d'un mois, par contre, je m'affaiblissais, je perdais du poids, des fois jusqu'à 5 kilos. Et il était temps de rentrer, de revenir. Donc c'est pourquoi j'ai organisé ce reportage sur différentes séquences de 1 mois de travail.
La panthère elle-même, c'est pas un animal qu'on approche facilement. Vous avez appris à la repérer dans ce labyrinthe de pierre.
On a bénéficié de professeurs experts en fait. Et ça, c'était une belle surprise, puisque ce sont des bergers en fait qui nous ont montré la voie dans leur massif. Et là où j'avais eu la chance de la repérer à deux reprises assez rapidement sur mon premier séjour, elle semblait inaccessible à des centaines de mètres de distance, observée depuis une longue vue. Et donc le fait de rencontrer ces bergers qui ne chassent plus depuis 20 ans, ne font aucun braconnage dans le massif dans lequel on a fait le reportage, ça a offert l'opportunité d'avoir des animaux peu farouches vis-à-vis de l'homme, puisque les bergers sortent leurs troupeaux de yaks et côtoient en fait la faune sauvage, dont les panthères des neiges. Et même plus surprenant, ils tolèrent en fait la prédation sur leurs troupeaux. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment assez remarquable, partant faire au début un reportage très animalier, de constater qu'en fait l'homme avait une place centrale dans la bonne survie en fait de cette population de panthères qui est en croissance sur ce lieu, et on en trouvait tous les 3 jours. C'était complètement inattendu de les observer, j'ai envie de dire, si facilement par rapport à ce qu'on pouvait se représenter, et des animaux qui parfois étaient peu farouches, donc ça a permis de réduire les distances d'approche, d'observation en observation, jusqu'à être vraiment à une douzaine de mètres dans le meilleur des cas.
Alors quand vous partez pour faire ce film sur la panthère des neiges, vous n'avez aucune idée préconçue, j'imagine. Faut savoir se laisser guider par la situation, en fait, par l'animal, par le contexte, le lieu. Ce film, finalement, c'est aussi le fruit de votre expérience, de votre ressenti.
Alors, la chance que j'ai eue, c'est que à partir du moment où on a pu atterrir dans ce massif préservé, le premier jour, j'ai commencé à écrire un carnet de voyage. Et je l'ai fait tous les soirs pendant 6 mois. Et du coup, ça me permettait d'avoir une trace très précise des expériences concrètes, donc de ce qu'on pouvait rencontrer, mais aussi des réflexions. Puisqu'on passe de longues journées des fois à l'affût, on observe des animaux ou pas, et l'esprit vagabonde, et en fait j'étais vraiment dans l'envie d'essayer de comprendre quel était le contexte de proximité justement de la faune sauvage avec les bergers éleveurs de yaks, quels pouvaient être leurs bénéfices, leurs problématiques avec ses voisins, des fois qui viennent bousculer un peu leurs troupeaux, ou les ours qui rentrent dans les habitations. Et donc ça a été vraiment intéressant, et je me suis appuyé ensuite sur ces carnets pour délivrer des informations extrêmement précises qui ont aidé à la rédaction du scénario, puisqu'on arrivait à reconnaître les panthères individuellement grâce aux taches qu'elles ont sur la face. Et donc je constituais des masques de chaque individu. Et d'une fois sur l'autre, lors des observations, j'arrivais à inscrire des fois une histoire sur certains individus que l'on retrouvait d'un voyage à l'autre. Une femelle avec ses jeunes, et les jeunes grandissaient pendant 2 ans et jusqu'à devenir autonomes.
Ce qui est frappant dans votre film, justement, c'est que c'est pas un documentaire, c'est un documentaire, mais c'est aussi surtout un film. Un film donc avec un scénario, c'est toujours un peu mystérieux, ce passage des images brutes de votre côté à une histoire construite, presque parfois même à suspense.
Je vais vous avouer que j'étais totalement perdu dans cet exercice, plus habitué à un travail de photographe et moins de réalisateur, entre guillemets. J'ai essayé de jouer ce rôle, mais en me faisant vraiment bien aider par des personnes expérimentées. En fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était de coller à la vérité, ou du moins la vérité, je m'excuse, mais on va dire peut-être mon interprétation de ce qui se passait, d'avoir une lecture naturaliste de comportements qu'on avait observés sur le terrain. Parce que l'on avait la chance de passer de longues heures à contempler ces animaux, avoir des comportements, et donc de faire de l'éthologie en quelque sorte. Et donc voilà, ça m'importait de raconter l'histoire d'une famille de panthères avec différents animaux du coup qu'on a pu filmer pendant tous ces mois, mais en essayant d'être le plus proche de ce qu'on a observé et voilà, restituer ça.
Alors Yves Fanière, bonjour. Vous êtes peintre, vous étiez de ce voyage. Vous en avez ramené des aquarelles superbes et d'autant plus émouvantes que vous les réalisez sur place. Pourriez-vous nous raconter comment cette aventure a débuté pour vous et comment vous l'avez vécu?
Eh bien, l'aventure au Tibet, qui a été un moment fort de ma démarche d'aquarelliste, ben c'est Frédéric. Nous connaissions de nom, Frédéric connaissait mon travail, moi je connaissais quelques-unes de ses images. Et puis, ben, je me souviens très bien du lieu de l'endroit. J'étais chez moi et puis je reçois un coup de fil. Je vois, tiens, un numéro français. Je décroche. C'était Frédéric qui me parle de son projet au Tibet et puis qui me dit, ben voilà, est-ce que tu serais intéressé à participer au projet et projet de livre. On ne parlait pas encore du film à ce moment-là. Et puis, est-ce que tu serais intéressé de participer, de regard croisé, photo aquarelle? Ben, j'ai très vite dit oui. Et je n'aurais jamais imaginé que l'aquarelle, grâce à Frédéric, ait pu m'emmener au Tibet, parce que j'en garde un souvenir vraiment merveilleux.
Est-ce que vous pourriez revenir sur votre façon de travailler, justement, le fait de croquer ce que vous voyez?
C'est très important dans ma démarche, c'est-à-dire que je ne peins que des choses que je vois, donc depuis quelques années. Alors, ben, le travail là-bas sur place a d'abord été le dessin, et je me souviens de mes premières esquisses de la panthère qui n'étaient pas très justes, parce que une panthère des neiges, c'est pas un guépard, c'est pas un léopard, c'est pas un tigre, et donc il y a des petites particularités. Donc j'ai cherché mes premières esquisses, c'était sur le terrain. Et puis, ben, à partir du moment où au fur et à mesure qu'on observe l'animal, on emmagasine des informations, dessiner, c'est une façon de regarder. Et puis quand on a, enfin j'utilise le terme, quand on a compris l'animal, c'est-à-dire tiens, les oreilles sont comme ça, tel repère, bon c'est pas pour ça que c'est gagné, mais on peut aller beaucoup plus loin dans le dessin et c'est comme ça qu'on construit le dessin et on garde surtout une bonne mémoire. Avoir compris l'animal avec ses particularités, ça nous permet, enfin moi ça me permet de garder une bonne mémoire de cet animal et d'aller plus loin au fur et à mesure qu'il bouge. Et donc de jour en jour et de mission en mission, ben mes croquis, mes esquisses s'amélioraient. Alors quand je pouvais, je travaillais l'aquarelle sur place, mais je travaille de deux façons. Les paysages, je les fais au maximum sur place, mais par rapport à certains paysages, on a eu tous les climats là-bas. Et donc moi, les moments où j'ai accompagné Frédéric, c'était automne-hiver, j'ai pas été en été. Et donc, ben, on avait des conditions météo parfois jusqu'à moins 20 le matin, hein, moins 15. Enfin, la nuit, ça descendait à moins 20, puis on démarrait le matin à moins 15. Et mon papier était gelé. Alors, un papier aquarelle, c'est un papier buvard, un papier complètement gelé, il absorbe beaucoup moins. Et surtout, à certains moments, dès que je posais mes pigments sur ma palette, malgré que j'avais de l'eau chaude, ben, le pigment, il gelait quasiment instantanément. Donc, j'ai des aquarelles assez particulières parce que les pigments granulent en petits cristaux de glace. Mais tellement impressionné des paysages que j'ai vus que je tenais à tout prix à les faire. Donc il y a des moments où la condition météo m'empêchait de faire de l'aquarelle, de terminer mon aquarelle sur place. Donc j'ai fait pas mal de dessins quand c'était compliqué, mais dès que je pouvais sortir ma palette, elle sortait, puis rentrait au campement, je terminais quelques aquarelles, et d'autres aquarelles plus grand format ont été terminées en atelier chez moi.
Frédéric, c'était important pour vous d'avoir l'œil d'un peintre, et pourquoi ?
Alors, je trouvais vraiment agréable de mélanger en fait notre perception, qui n'était pas totalement éloignée, puisque dans la photographie, on représente ce que l'on voit, et Yves l'a bien expliqué, il travaille dans l'instant. Et je trouvais assez génial de voir des planches de croquis prendre forme depuis sa longue vue, des fois avec la chance qu'il a, c'est de pouvoir travailler d'assez loin avec sa longue vue, alors que moi, il faut que j'essaye des fois de me rapprocher près. Et on était assez complémentaires sur le terrain, puisqu'on arrivait à dialoguer, et puis je bénéficiais aussi de ses yeux, puisque lui avait l'ensemble de la scène, alors que moi, j'avais souvent un angle un peu plus restreint. Et donc, des fois, on utilisait un petit talkie-walkie, on échangeait des infos très précieuses sur est-ce que la panthère a bougé, est-ce qu'elle a détecté ma présence, et Yves pouvait me donner des infos sur comment essayer d'optimiser le déplacement. Donc, au-delà de la complémentarité de ce qu'on a pu faire, je pense qu'on a eu des moments assez incroyables d'observation et puis d'approche. Et puis, il faut beaucoup d'yeux pour repérer ces animaux. Et le fait de travailler à plusieurs aussi, avec nos amis bergers, Yves, etc., on était quand même plus nombreux à se déployer dans une vallée pour essayer de trouver l'animal, quoi. C'était pas une mince affaire.
Alors l'émotion pour le spectateur vient bien sûr des images elles-mêmes, mais moi j'ai vraiment apprécié ce témoignage de vie d'une vallée reculée. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir su capter l'énergie de ce lieu et peut-être de le restituer tel que vous l'avez vécu?
Je pense avoir beaucoup appris de ce contexte. Comment, après 20 ans sans chasse ni braconnage, la faune peut revenir rapidement si on lui laisse la place, sans que ce soit une sorte de sanctuaire sans homme, ni élevage. Là, il y a bien des bergers, mais ils sont pas trop nombreux. Il y a bien des troupeaux, mais ce sont des 50 animaux par troupeau. Ce sont pas des troupeaux trop importants. Et en fait, la faune, elle est partout autour. Les herbivores ont la place de pâturer aux côtés des yaks domestiques. Et il y avait des ours, des loups, des léopards, des panthères des neiges, des lynx, des renards. Donc un cortège de prédateurs très important, et tout ce petit monde arrivait à cohabiter ensemble. Donc c'était bouleversant pour un Européen qui entend en ce moment beaucoup parler du retour des prédateurs si peu nombreux, et qui pourtant font parler d'eux comme des espèces dérangeantes dans un pâturage. Et donc la lecture ensuite a été celle de se dire, mais oui, mais quelle place on a laissé dans nos montagnes européennes aux grands herbivores, aux pâturages, aux prédateurs, et comment tout ce petit monde en fait vit très bien et participe à la régénération des milieux, des forêts, etc. Donc il y avait vraiment une question de remettre en cause le fonctionnement qu'il y a pu y avoir, y compris au Tibet, puisque ces gens ont changé de cap il y a seulement 20 ans. Et qu'aujourd'hui, ils en ont un bénéfice. Ils habitent dans une montagne riche, en fait, bien qu'ils ont parfois des problèmes de voisinage. Mais je trouve que ce sont avant tout des problèmes de voisinage, justement. Et c'est pas pour autant qu'on a un conflit avec son voisin qu'on va vouloir l'éliminer, comme on le fait des fois dans nos montagnes européennes, avec l'ours, le loup et le lynx.
Alors, dans votre film, il y a des scènes qui ont été rarement, voire jamais filmées. J'imagine que ça présente un grand intérêt scientifique. Vous êtes en lien avec des chercheurs?
Oui, c'est ça qui était vraiment intéressant. C'est que donc, je travaillais avec une station biologique chinoise, et eux travaillent en fait avec des pièges photos. Donc ils savent à un instant T, quand le piège s'est déclenché, qu'un animal, que ce soit une panthère ou d'autres espèces, sont passés là. Ils arrivent à les reconnaître grâce à leur tâche, tel individu ou tel autre. Mais eux n'ont que cette photographie d'un passage, à telle heure, il faisait telle température, et l'animal était seul ou accompagné de ses petits, etc. Nous, on avait une approche sur le terrain totalement différente. On passait toute la journée dehors. Et d'ailleurs, on passait plus de temps que les Tibétains eux-mêmes, qui sont habitués à la montagne, ils savent qu'il fait froid et qu'il faut, pour bien supporter, sortir un peu, rentrer, se réchauffer, puis ressortir, puis re-rentrer. Nous, on passait tout notre temps dehors à scruter. On savait qu'on avait un petit mois devant nous et qu'il fallait tout optimiser. Et on a assisté à des scènes de chasse, une panthère qui attaque un jeune yak, une panthère qui aussi attaque un baral, donc c'est sa proie de prédilection, une sorte de mouflon. Et ça, c'est des documents, puisque c'est voilà, des scènes qui sont excessivement dures à rencontrer, et on avait le matériel, donc on a essayé de saisir ces occasions, ou des rencontres de panthères entre elles aussi. On connaît assez peu des relations sociales qu'elles peuvent avoir. On s'est aperçu que en haut d'une montagne, pendant la reproduction, il y avait 4 panthères qui se rassemblaient jusqu'à la nuit, et là, c'était pour nous, après une autre histoire, on ne pouvait plus voir la suite.
Pour finir, qu'avez-vous ramené l'un et l'autre de ces rencontres avec la panthère des neiges, de cette immersion dans son habitat? Est-ce qu'il y a quand même une dimension initiatique dans ces voyages? Qu'est-ce que vous ramenez?
Je dirais peut-être une de mes plus belles expériences de vie. Vraiment grâce à ces bergers qui nous ont ouvert leur cœur, leur porte. On a logé 6 mois chez eux, on a sympathisé. Leurs enfants m'ont fait penser aux miens. Je ne les ai pas trouvés si différents de ça que nous, même à l'autre bout du monde. Et puis, une expérience naturaliste folle aussi, de voir cette proximité qu'on pouvait avoir avec ces animaux qui sont magnifiques. L'abondance aussi de ces espèces. Et puis, sur le plan personnel, j'ai essayé de changer quelques petites choses, de recaler des choses qui me semblaient importantes, en m'inspirant en fait de la façon dont ces gens ont fait preuve de tolérance, des limites qu'il y a à toute chose. Le pâturage, c'est quelque chose de limité. On peut pas s'approprier tout, sinon on ne laisse rien aux autres. Et du coup, j'ai adapté un peu, par exemple, mon mode d'alimentation en m'inspirant du leurre. Ils mangent très peu de viande, mais tous les jours, ils consomment moins de yaks dans leur troupeau que les panthères elles-mêmes n'en ponctionnent. Et ils font confiance aux reproductions de yaks chaque année pour régénérer. Donc des choses comme ça qui m'ont inspiré. Et puis j'en garde aussi un excellent souvenir avec mon compagnon Yves de voyage. C'était aussi des super moments de vie parce que voilà, on est loin de nos familles, mais on a la chance de partager des passions communes et il faut que ce soit des bons moments. On passe beaucoup de temps. Voilà, donc et là vraiment c'était au rendez-vous cette bonne ambiance de terrain et puis ce partage voilà de visions artistiques différentes complémentaires.
Bien, pour ma part, oui, c'était aussi un voyage initiatique. Je dirais en résumant en quelques mots, être dans une vraie nature, une grande nature. Alors rencontrer la Panthère des Neiges, c'est quand même un événement inimaginable et même au départ peu concevable. Et on l'a vu quand même pas mal de fois et dans des bonnes conditions, mais on faisait ce qu'il fallait pour parce que vous savez que j'ai eu pas mal de réflexions ici là sur le salon. De gens qui disaient que avoir le film, je vais pas dire que ça a l'air facile, mais bien sûr que dans le cadre du film, vous voyez la crème de la crème. Donc ça pourrait paraître facile, mais bon, on a quand même eu quelques moments de galère, mais qui étaient toujours dans la même bonne humeur. Donc, de la grande nature, observer une panthère des neiges dans son milieu naturel, c'est quand même quelque chose de grandiose. Et alors, des rapports humains. Avec l'ouverture, y a une chose auquel je pense très souvent par rapport à leur culture. Ces gens sont pareils à nous, mais dans leur culture, ces gens ne sont pas avides. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, quoi. Ces gens se contentent de ce qu'ils ont. Ça peut nous paraître peu, mais ça n'est pas peu. Ils ont ce qu'ils ont, ils s'en accommodent. Ils ne cherchent pas spécialement à avoir plus. Et là, je pense que moi, c'est Frédéric a adapté des choses dans sa vie courante. J'ai fait pareil que lui. Et moi, je suis resté assez frappé par cette non-avidité. Et donc, dans mon regard de tous les jours, j'essaie de l'appliquer, d'être moins avide. Et nos cultures sont avides. Je pense que la relation à la nature se fait au travers de l'avidité, parce qu'on veut toujours plus. Quand on regarde un arbre, on regarde peut-être les planches qu'il peut faire ou le chauffage qu'il peut donner avant de se dire, tiens, c'est peut-être un être qui fait partie d'un tout, avec tous les animaux qui tournent autour. Et donc voilà, moi j'ai vraiment retenu ça. Puis l'amitié, les moments magnifiques qu'on a vécu, Frédéric et moi, et tous les autres là-bas. Donc des grands, grands moments.
Un grand merci à Frédéric Larré et Yves Fagnard pour leur disponibilité et merci également à l'équipe du Festival international du film ornithologique de Ménigout qui nous a si bien reçus comme d'habitude et permis de travailler dans des conditions optimales. Il s'agissait du dernier entretien enregistré au Festival 2021. Il faudra donc attendre octobre prochain pour de nouvelles aventures. Celle de Frédéric Larré et Yves Fagnard, c'est un film deux films même, mais aussi une expo photo et puis un livre sublime qui s'intitule « En harmonie avec la panthère des neiges ». Vous retrouverez tous les détails et des photographies sur la page de l'émission. C'est la fin de Toucher Terre pour aujourd'hui. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ce numéro. Et merci à vous toutes et tous qui m'écoutez. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour de nouvelles découvertes. Et d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur notre site radiograndciel.fr.